C'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux. C'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Et nous sommes présentes malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes, rappeurs, graffiteurs, rebelles, étudiants, rêveurs. Parce que vous êtes nos filles et nos fils.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, il est 9h du matin et vous écoutez l'émission En bas à gauche, la programmation estivale. Tout l'été, vous pouvez nous retrouver les mardis 9h sur les ondes de Radio Centre-Ville avec une série portant sur la décolonisation en Afrique, une série qui analysera également les moments forts des révoltes dans le monde arabe cette année. Des chroniques, encore des apatrides anonymes portant sur l'actualité en immigration, ainsi que plusieurs autres émissions spéciales. On vous invite à visiter notre blog pour en savoir plus à en bas à gauche, wordpress.com.
La question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
On vous propose aujourd'hui un spécial Palestine pour revenir sur l'épopée de la deuxième flottille de la Liberté qui, en juillet, donc le mois dernier, entendait briser le blocus imposé à la bande de Gaza. En première partie de l'émission, on vous invite à écouter un entretien avec Alain Grèche, directeur adjoint du monde diplomatique et auteur du livre « De quoi la Palestine est-elle le nom? ». Il s'agit d'une entrevue réalisée par Radio Canute, une radio communautaire française.
On est en compagnie d'Alain Grèche. Donc Alain Grèche est directeur adjoint du Monde diplomatique, spécialiste du Proche-Orient et aussi animateur du blog Nouvelles d'Orient. Donc vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui vient de paraître et qui s'appelle « De quoi la Palestine est-elle le nom ?»
Ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce conflit soulève tant de passions, pourquoi c'est devenu d'une certaine manière... Comme disait Étienne Balibar, la cause palestinienne est devenue une cause universelle. Pourquoi elle mobilise des Indiens en Amérique latine ou des gens dans les pays asiatiques? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle symbolise?
Une des pistes que vous évoquez, c'est Israël-Palestine comme sur la ligne de fracture entre l'Orient et l'Occident.
Et aussi entre le Nord et le Sud. Ouais. Si on prend les conflits qui ont un peu mobilisé internationalement depuis les années 60, il y a trois conflits essentiellement, le Vietnam et l'Indochine, qui étaient aussi à la confluence du Nord et du Sud, entre les États-Unis et le peuple vietnamien et le peuple indochinois, ensuite l'Afrique du Sud, et aujourd'hui la Palestine. Je pense que c'est parce que cette question des rapports entre le Nord et le Sud, la question coloniale en particulier, est une question qui reste très sensible, bien que le système colonial se soit effondré. Mais c'est un système avec lequel on n'a pas encore réglé tous les comptes, qui reste très fort dans la mémoire, et on le voit dans les différents débats, et on le voit dans le débat en France sur la question coloniale, pas liée à la Palestine, liée à l'Algérie, à quel point cette question continue à marquer nos sociétés.
Et... Parce que vous dites que le système colonial s'est effondré, mais c'est compliqué de... Enfin, ça a l'air d'aller très vite que de dire ça quand on voit encore la réalité des rapports Nord-Sud.
Oui, mais en même temps, ce qui fait qu'aujourd'hui ces problèmes viennent à maturité, c'est que d'une certaine manière, nous voyons les fruits de la décolonisation. C'est-à-dire, dans les années 70, on pouvait penser que, en gros, ces rapports Nord-Sud étaient toujours marqués par la domination du Nord et qu'il y avait, comme on disait, un système néocolonial. Ça reste vrai, bien sûr. Mais en même temps, ce à quoi on assiste, je crois réellement, c'est un basculement du monde avec l'émergence de l'Inde, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, le retour de la Russie. Pour moi, il est en train de se clore une période qui a duré 2 siècles, donc qui n'est pas une période courte, qui a été marquée par une domination sans partage de l'Occident, de l'Europe d'abord, des États-Unis, enfin du monde blanc sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est en train de se terminer sous nos yeux. Bien sûr, je veux dire, les États-Unis restent la principale puissance mondiale, elles le resteront sans doute encore quelques temps, mais... Quand même, on a vu en quelques années, alors qu'on pensait après l'effondrement de l'Union soviétique qu'on allait vers un monde américain, avec, on disait, un monde unipolaire dans lequel la seule puissance serait les États-Unis, on voit à la fois à la suite de l'enlisement américain en Afghanistan, en Irak, des échecs de la politique américaine, mais aussi en raison de la montée de la Chine, de l'Inde, etc., que ce n'est pas du tout le cas. Que c'est un autre monde qui est en train de se dessiner. Alors, combien de temps ça va prendre, c'est une autre question, mais je crois que c'est très important.
Mais est-ce que aussi la victoire du Nord sur le Sud, c'est pas la mise en place globale d'un capitalisme à échelle de la planète ?
Il y a, c'est-à-dire, ce qui est paradoxal, c'est que dans les années 60, enfin dans les années 50, quand il y avait un mouvement de libération nationale anticoloniale qui était fort, il était porteur aussi d'un projet de transformation sociale. Je veux dire, c'était la voie non capitaliste, le socialisme, enfin, que ce soit l'Algérie, le Vietnam, etc. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'il n'y a qu'un seul modèle qui se met en place. Mais je pense que c'est plus compliqué, parce que je pense que le fait qu'aujourd'hui, des pays qui jusqu'à présent étaient marginalisés jouent un rôle central dans la politique internationale, c'est quand même une rupture avec un monde qui a été dominé par une minorité. Bien sûr, c'est pas ni le modèle chinois ni le modèle indien ne sont forcément des modèles très, très attractifs ou des modèles tels qu'on a pu les rêver dans les années 60. En même temps, je pense que le fait que la Chine et l'Inde, encore une fois des peuples non blancs, jouent un rôle central, c'est vraiment un bouleversement. Je crois que c'est une victoire politique. Le fait que, globalement, l'histoire mondiale était écrite, là aussi, par une minorité et à travers la vision d'une minorité. Le fait qu'aujourd'hui, on ait une vision beaucoup plus pluraliste, je pense que c'est effectivement un changement très important.
Oui, oui, je pense que c'est effectivement... Bon, alors, le bouquin, c'est pas un bouquin... c'est pas un bouquin universitaire, c'est pas un bouquin académique très épais. Je pense que si on retire les annexes, ça fait 80 pages qu'on peut lire assez rapidement, mais... En même temps, il y a, à mon avis, suffisamment de citations et de références pour inciter le lecteur à aller approfondir. Et il fait sortir, en quelque sorte, de la littérature disponible en langue française, des ouvrages, etc., et des thèses qui, il y a encore 15 ans ou 20 ans, étaient considérées comme dangereuse, tabou, etc. Moi, je veux dire, parler, par exemple, des accords de Havara entre le sioniste et l'Allemagne nazie dans les années 30, on peut trouver des références, mais c'est pas le genre de choses. C'est un peu un brûlot, ce genre de choses. Et là, non seulement c'est possible de sortir ces choses-là, mais en plus de ça, elles font sens dans l'explication qui en est donnée dans le bouquin. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Enfin, je recommande vivement la lecture. Ça fait partie des livres qu'on doit avoir dans sa bibliothèque.
Tout à l'heure, on parlait de colonialisme et du coup de la chute de ce système-là. Donc, quand on prend un peu la situation en Israël et en Palestine, c'est vraiment de ça dont il est question, d'un système colonial imposé à des indigènes à qui on laisse peu le choix. Est-ce que le fait qu'Israël soit la dernière tête de pont d'un système colonial, d'un système colonial encore à l'œuvre, a une incidence sur ses relations internationales, en particulier avec des grands pays occidentaux.
Oui, bien sûr, même si ces relations ont varié au cours de l'histoire. Jusqu'à présent, enfin, le discours dominant en Occident sur Israël, c'était le retour du peuple juif dans sa terre, le mouvement sioniste comme émancipation des juifs. Et je dirais la dimension coloniale a été très largement occultée. Elle était présente, je ne prétends pas du tout que ça vient de paraître. Il y a un texte très célèbre de Maxime Rodinson, qui est un des plus célèbres orientalistes français, qui a écrit en 1967 dans une revue qui s'appelait Les Temps modernes, qui était la revue de Jean-Paul Sartre, qui a fait à la veille de la guerre de 1967 un énorme dossier sur le conflit israélo-arabe, et ça s'appelait « Israël fait colonial ?». En fait, le point d'interrogation avait été imposé par la rédaction de Temps Nouveau pour Rodinson. Il n'y avait pas de... Dans son texte original, il n'y avait pas de point d'interrogation. Donc c'est une idée qui est ancienne, mais qui refait sens aujourd'hui, à mon avis, de manière beaucoup plus forte. Et c'est important, ce retour à l'histoire, c'est-à-dire de montrer que ce mouvement qui s'est... le mouvement sioniste, qui par certains aspects, à la fin du XIXe siècle, avait les... caractéristiques d'un mouvement d'émancipation nationale tel que le connaissaient les empires russes, austro-hongrois, c'est-à-dire de libération, d'indépendance des Serbes, des Croates, des Hongrois, etc., avait un aspect particulier qui était le fait qu'ils ne voulaient pas l'indépendance en Europe, ils voulaient l'indépendance sur un territoire, et sur un territoire qui était un territoire sur lequel il y avait une population. Et donc, à l'époque d'ailleurs, je le répète, le mouvement sioniste lui-même se qualifiait de colonial. C'est-à-dire, Herzl, à plusieurs reprises, il dit « nous sommes un mouvement de colonisation », parce qu'à l'époque, la colonisation était vue comme quelque chose de positif. On allait apporter la civilisation à tous ces barbares. Et d'ailleurs, il ne faut pas croire que ce discours était purement manipulatoire. Il y avait des gens qui y croyaient vraiment. Je cite toujours Edouard Saïd, qui était un intellectuel américano-palestinien, qui dit « on ne peut pas comprendre le mouvement colonial si on ne comprend pas la somme de dévouement de gens qui sont partis réellement pour civiliser ». C'était pas seulement... bien sûr, c'était manipulé, mais en même temps, c'était porteur de quelque chose. Mais ça, c'est un autre problème. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement sioniste a été un mouvement colonial, non seulement par son idéologie, mais par l'élément central qui est resté, qui reste central jusqu'à aujourd'hui, qui est l'élément de la terre. C'est les mouvements coloniaux se sont caractérisés par la conquête de la terre, la conquête de la terre des indigènes. En général, les indigènes n'avaient pas de droit de propriété sur la terre au sens légal européen du terme. Donc c'était facile de les expulser, c'était facile d'acheter les terres, c'était facile de trouver mille et un prétextes pour prendre ces terres. Et dès le début du mouvement sioniste, il y a eu cet aspect de conquête des terres et de chasser les autochtones en même temps. C'est-à-dire, c'était pas seulement on allait créer des colonies juives en Palestine, on interdisait aux Arabes d'y travailler. Il y a un mot d'ordre qui, quand on y réfléchit cinq minutes avec ce qu'a représenté la montée du nazisme, quand même qui fait frémir, c'était le travail juif. C'est-à-dire, le mouvement sioniste développait l'idée qu'il fallait imposer le travail juif. Ce qui est quand même quelque chose d'assez effrayant. Et cette conquête de la terre n'a pas arrêté. C'est-à-dire, elle a, jusqu'à la création de l'État d'Israël, ensuite, entre 1949 et 1967, c'est une conquête de la terre. C'est-à-dire, on a confisqué la terre des Arabes citoyens d'Israël. Et ensuite, à partir de 1967, on a commencé la colonisation de la Cisjordanie. Donc il y a eu ce mouvement de conquête de la terre, il n'a arrêté à aucun moment.
هايلة كلمات لكل إمياتنا وأخواتنا اللي تايهات بين عادات جهل وتقاليد تافهة الكل شافة بس مين دافع يعني هاي إلك وين ما تكوني مسجونة مهضومة من أحلامك محرومة ارفعي راسك لفوق يا أختي ارفعي راسك لفوق بس لو واحد يطلع حس بكاء بلا صوت من ماسحة الدموع قد ما عيونها تفتح مداها سياج الممنوع قلتها ممنوع لي ممنوع لها مسموح لي ممنوع لها والمسموح لها فيش كلمة هيك في قاموسها توقفنا عاجرين اللي تدوس حقوقها يوم ورا يوم تعيد نفس اليوم الأولى بالقوم والأخيرة بالنوم هذا مني إلك يا امرأة يا أم البيت مني أنا الرجل اللي بس يبنيلك فيه حيط لسجن الحريم الحيطان وما تتيسر للرواية التاريخية ما تتحضر من وقت وقت البنات من وقت ختان الشهوة لوقت وقت الرأي ولوقت ختان الشهوة فريسة لما ضعيفة ايش تحكي لحالها بعذاب تسعة اشهر واحنا بنطلع نبكي رجع للسيرة بصمات آدم عالجريمة وصابع الاتهام على حواء غريبة غريب اكتر انه احنا منعين الحرية عن الانثى والحرية نفسها انثى الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس حس حس
طب المرة العربية انكتبت حيطها بيضة صارت زرقة زرقة بدر بلد تعرف الدنيا غربة وشرقة مش مفرقة بينها وبين طيور مسكينة بالسما محلقة مش قادرة تنزل تواجه قلقة وانحبسة ببيت اللي فيه ما لقيت إلا دمعة الياريت وكي عالم شو رميت بتعاود تسأل نفسك من وين انتي قتيت قتيت بس مكسيت تسألني ليش بكيت عشان أرواح ما إلها روح بيطلع صياح من جروح ومسبب الجروح بيطلع بريء عسكيني تنوح بريء بس جريء تسألني وين روحت ليش من وين انت طلعت وبنقطة ضيعوني ها طبعا اتهموني وبهي النقطة هو كان الرابح وانا اللي خسرت بس معلش من يوم ورايح ريح وجع فايح ما فيش راح نوقف عاجرينا مش عادينا فأسفك ولا بكفي وقالم مش رح يخفي بس فعلك رح يدفي سعاني ورح يشفي في أختي تفقلي خلي اخواني تتفقلوا عحقك تقتلي اخواتي فيك تتماتل
الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس حس
بتأسف لها هاي اللي عطتني وجه واحترام قدام اصحاب ذكرت بس كلمات عطتني على لسان ما انا مجبورة ملي فينا زلماني كمان كمان طول ما فينا الا من الزلام بتأسف أنا ليك العبطي عرضك بين ايديكي بعد ما قنعتك انك فيبي روحت سبته كله عليكي بينادوني جدع لاني اخذت البراءة من عينيكي سكنت كلمة شر بدينيكي أكبر تأسف مني لا أختي لحم ودمي على إنا بنساوي بس مش بكل بنسوي حقك علي لا لا حيضل مربوط بيدي لأنه دياب اللي برا جوعان تعوي
الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس حس حس
هاي تأسفت كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش إذا بنفع تأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بنزل كفاية دم وأنا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها أوطى مني وإني بعملها بس أكنها انولدت تخدمني بتأسف إنه من ورا ظهرها تفلسف عليها بتأسف إنه فيش كفاية موسيقى تأسف عليها بتأسف على كل إشي عملته مش متذكره بتأسف
Il y a eu un système de propagande, de désinformation, de soumission, de terrorisme intellectuel. Regardez quelqu'un comme Edgar Morin qui est poursuivi par le CRIF pour l'antisémitisme. Enfin, qui c'est qui peut penser qu'un penseur comme Edgar Morin puisse être antisémite? Il a été poursuivi par ça. Regardez tous les gens qui prônent le boycott des produits israéliens, qui sont poursuivis, qui sont acquittés par certains, qui sont condamnés par d'autres. Alors, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a,
Si le discours colonial a peut-être été nié dans la population pendant un moment, enfin, du projet colonial sioniste a été nié, pour les dirigeants de ce monde, c'était pas le cas. Et dans quelle mesure aussi la Palestine aujourd'hui est-elle au vecteur de tant de soutien populaire, si c'est pas justement d'être un peu le symbole des dernières résistances à un colonialisme encore en place, quoi.
Oui, c'est-à-dire c'est pas seulement être le symbole de la résistance, mais aussi de faire ressurgir, de mettre de nouveau au centre cette question coloniale. C'est-à-dire, c'est une partie, la colonisation, c'est une partie majeure de l'histoire du XXe siècle, dont nous avons tourné la page sans vraiment la lire. Et on le voit à quel point elle ressurgit aujourd'hui. Elle ressurgit à travers différentes questions, à travers la Palestine, mais en France, elle ressurgit aussi à travers l'Algérie. Pour revenir à 67, une des choses les plus extraordinaires en 67, dans les manifs pro-israéliennes, c'est la position de l'extrême droite. Il ne faut pas oublier que pour une partie de la population française, c'était la revanche sur la guerre d'Algérie. La victoire israélienne, c'était « ils vont nous venger des Arabes ». Et il y a quelqu'un que je cite dans le livre, qui s'appelait Xavier Vallat, qui était le commissaire aux affaires juives de Vichy, qui dit « je suis devenu un sioniste, parce que Israël va combattre les Arabes ». Et aujourd'hui, on entend de nouveau ce discours, qui avait un peu disparu sous cette forme, c'est-à-dire de dire finalement « Israël est l'avant-garde de la lutte contre les mouvements islamiques ». Et donc, de ce point de vue, mérite notre soutien. Et on oublie totalement le fait que ce conflit, encore une fois, ce n'est pas un conflit islam, occident, orient, etc. C'est un conflit d'occupation et d'occupés, et dans lequel il y a une puissance occupante qui est Israël.
Et puis, j'ai l'impression que aussi, à travers les années, Israël et la Palestine, de fait, se retrouvent toujours sur la même ligne de fracture, en fait, avec, à des moments dans l'histoire palestinienne, un rapprochement plus important avec ce qu'on pouvait appeler le bloc soviétique, ou en tout cas, au moins une partie de la résistance palestinienne proche d'une forme de communisme, etc. Mmh. Et qu'aujourd'hui, de nouveau, on place la résistance palestinienne du côté de l'islamisme, et en face,
On a oublié aujourd'hui, parce que ça apparaît, mais que la propagande israélienne dans les années 70, c'était de dire l'Organisation de libération de la Palestine, c'est des agents soviétiques. C'est des marionnettes aux mains des soviétiques. Et il y a des livres qui sont parus en Israël, de propagandistes en Israël ou aux États-Unis, pour expliquer qu'en fait l'OLP était une pure manipulation, une organisation terroriste aussi. Je veux dire, les accusations sont toujours les mêmes. Les mouvements peuvent changer, mais les accusations à l'égard des Palestiniens sont toujours les mêmes. Un, c'est des terroristes. Ils utilisent la violence, en oubliant que la violence, elle est d'abord celle de l'occupant. La violence de l'occupé, c'est une réponse à la violence de l'occupant.
Et merci de le dire, Alain.
Et c'est pas moi qui le dis, je le cite d'ailleurs, c'est Mandela. Mandela il raconte ses conversations avec de Klerk au moment où il est libéré, et où de Klerk lui dit « il faut renoncer à la violence ». Et il dit « nous renoncerons à la violence quand nous serons mis d'accord sur le principe « un homme, une femme, une voix ». Une fois que ça, on renoncera à la violence. Mais en attendant, non. Et il dit explicitement, il dit, la violence, c'est jamais l'opprimé qui l'a choisi. La violence, elle est choisie par l'oppresseur. C'est l'oppresseur qui nous impose la violence parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et effectivement, on oublie aujourd'hui, parce qu'on présente une image de l'ANC quasiment christique, qu'en 60-61, l'ANC a fait le choix de la lutte armée. Et je rappelle que Amnesty International a refusé de considérer Nelson Mandela comme un prisonnier de conscience parce qu'il avait utilisé la violence.
Cet exclusivisme et cette séparation, ségrégation complètement, avec la société, je n'hésite pas à utiliser le mot indigène, que je ne considère pas du tout comme étant péjoratif, de la société palestinienne, remonte à la fondation même du mouvement sioniste. La charte du Fonds national juif qui a été créé en 1901, donc c'était vraiment les toutes premières années, indiquait que les terres acquises devenaient propriété inaliénable du peuple juif, et dans toutes ces terres acquises, les métayers palestiniens étaient... on demandait aux propriétaires, aux anciens propriétaires de les chasser, et s'ils ne le faisaient pas eux-mêmes, c'était les colons qui arrivaient qui faisaient le boulot dans les mois qui suivaient. Donc ça... Cet exclusivisme a toujours été caractéristique du mouvement sioniste et est vraiment, à mon avis, vraiment complètement consubstantiel. Et il n'a pas cessé de marquer des points. Et puis, je pense que c'est un phénomène qui s'est, en plus de ça, approfondi et poursuivi après la création de l'État d'Israël. Et peut-être le plus spectaculaire, dont on parle peu, c'est l'exclusion de la main-d'œuvre palestinienne, sous le prétexte que, bon, vous voulez votre État, bien, donc restez chez vous. Mais à la suite des accords d'Oslo, alors qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui allaient travailler en Israël, et que la communication était libre entre les territoires occupés et le reste d'Israël, le robinet d'emploi s'est fermé, et ils ont été remplacés, bon, soit par des Russes qui arrivaient, soit par des Thaïlandais, ou que sais-je, des Philippins. Donc c'est un phénomène qui se poursuit encore à l'heure actuelle, jour après jour. Et moi, ça me pose quand même la question de savoir si la perspective, effectivement, bon, qui est celle qui est présentée par le bouquin, bon, auquel on peut adhérer, qui est celle, effectivement, de recréer ou de créer ou d'imposer une société qui soit une société dans laquelle Palestiniens et Israéliens, qui sont à peu près en nombre égal à l'heure actuelle entre Méditerranée et Jourdain, coexisteraient réellement si c'est réaliste dans les conditions actuelles. Enfin, je veux dire, l'obstacle semble être un obstacle qui est de plus en plus profond.
Non, vous avez raison, ce n'est pas réaliste à l'heure actuelle. Mais je dirais, ce n'était pas plus réaliste que la perspective de l'ANC en Afrique du Sud au début des années 60. C'est-à-dire, cette perspective, c'est une perspective. Mais comme vous le dites, pour qu'elle aboutisse, il va falloir que la société israélienne paye le prix et se rende compte du fait que l'occupation et cet exclusivisme dont vous parlez, il a un prix. Or, aujourd'hui, il n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'Israël peut poursuivre cette politique avec une complicité totale de, en tous les cas, des États-Unis et de l'Union européenne. Et donc ça, c'est un problème. Donc tant qu'il n'y aura pas un prix à payer à cette occupation, il n'y a pas de raison que ça change. Je crois que vous avez raison. Il n'y a pas de raison que ça se transforme.
Mais est-ce que cet exclusivisme est suffisamment bien connu ou bien perçu de la part, je parle de nous, de nos concitoyens, qui ne sont pas nécessairement choqués quand on leur parle de seule démocratie du Moyen-Orient?
Je veux dire, une chose que personne ne sait, c'est qu'il n'y a pas de nationalité israélienne. Ça n'existe pas dans la loi israélienne. Mais je veux dire, il y a une loi qui est sortie en 1970, enfin un jugement en 1970 en Israël qui dit... Quelqu'un a dit, je veux obtenir la nationalité israélienne, c'était un juif d'ailleurs, on lui a dit, ça n'existe pas, soit vous êtes juif, soit vous êtes arabe. Un des problèmes qui fait qu'il n'y a pas de solution possible aujourd'hui, parce que Israël, son gouvernement et une partie de son peuple, ne reconnaissent pas les Palestiniens comme des égaux. Et que, en gros, la sécurité d'un Israélien vaut la vie de 100 Palestiniens. C'est ça la question, il y a vraiment une inégalité fondamentale qui est le résultat d'une vision coloniale.
Donc on rappelle le titre du livre d'Alain Grèche qui vient de sortir, c'est « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» C'est aux éditions Le Lien qui libère. Merci beaucoup de votre présence, Alain Grèche, ici. Merci beaucoup.